Nous retrouvons Philippe Ariagno pour votre programme théâtral à Gap.
Philippe Ariagno, vous êtes directeur du théâtre La Passerelle de Gap et vous présentez donc cette nouvelle saison, une nouvelle saison qui s'annonce riche.
Oui, j'allais dire un peu comme toutes les saisons, mais c'est vrai qu'elle a un petit goût particulier, et surtout après un an et demi d'annulation pratiquement de tous les spectacles, à part un la saison dernière. C'est une saison dense, puisqu'il y a 34 spectacles et pas loin de 100 levées de rideaux, 100 représentations. Donc c'est une saison très chargée, avec des reports des spectacles qui ont été annulés, parce que c'est des spectacles qu'on voulait vraiment, vraiment montrer aux Alpins. Et puis 17 nouveautés sur les 34, donc voilà. Il y a des grands plateaux, des petites formes, un peu dans tous les domaines du spectacle vivant. Donc oui, on va pas chômer et je pense que la saison est très très riche pour les spectateurs et ceux qui ont envie de renouer avec le spectacle vivant.
Festival aussi.
Oui, on peut peut-être se dire déjà que la saison 21-22 est une vraie singularité puisque l'annulation du festival au mois de mai, nous avons fait un report de ce festival tous dehors enfin les 24, 25, 26. Donc c'est le premier grand rendez-vous, les grandes retrouvailles de ce week-end festif à Gap. Et puis, il y aura un deuxième festival au mois de mai 2022, donc la saison prochaine, est encadré par ce festival Tous d'or enfin, qui attire beaucoup, beaucoup de monde, 35 000 spectateurs, il y a à chaque fois 15 spectacles, une soixantaine de représentations. Donc voilà, c'est devenu un événement incontournable dans les Hautes-Alpes et on s'en félicite. On en aura deux la saison prochaine. Et puis, j'allais dire qu'il y a une deuxième singularité importante. On a fait un gros pari, un défi, on va dire, dans la saison 21-22, avec l'invitation d'une compagnie franco-catalane, pour 7 représentations dans la grande salle, pour 800 personnes, donc c'est beaucoup beaucoup de place à proposer. Et on y croit, ça s'appelle Falaise, de la compagnie Barreau d'Evel, et c'est une compagnie qui fait une sorte de spectacle total, qui mêle danse, théâtre, cirque, musique, art plastique, et qui travaille avec des chevaux, des oiseaux partout. Enfin, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui se retrouvent en bas d'une très grande falaise, et qui essaient de vivre, de se comprendre, de se connaître. C'est absolument époustouflant, donc c'est l'événement de la saison prochaine. Et je dirais pour les gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre, c'est sûr, mais surtout les gens, les auditeurs et auditrices qui nous entendent, ceux qui n'ont pas l'habitude de pousser les portes d'un théâtre, venez voir Falaise, c'est un événement, ça va être un événement en région puisque nous sommes les seuls à le montrer. Donc cette représentation pour rentrer dans un rêve et l'imaginaire de cette compagnie qui est absolument formidable. Donc voilà, on en reparlera, c'est à la fin du mois de janvier, et ça va marquer fortement, je pense, les esprits, et ceux qui ne vont pas au théâtre, s'ils voient ce genre de spectacle, je pense que ça va déclencher pas mal d'envie, d'autres envies de voir encore du spectacle vivant. C'est un peu les deux grosses singularités. Et puis après, j'allais dire, dans la saison prochaine, il y a toujours des thèmes un peu qui reviennent, parce que les artistes ne font qu'une chose, c'est parler de nous, du monde dans lequel ils vivent. Donc c'est des vrais reflets, des vrais miroirs de nos sociétés. Et j'allais dire qu'un des thèmes assez central, on va dire, de la saison prochaine, c'est notre rapport à la nature ou notre déconnexion avec le monde sauvage ou... qui évidemment parle des enjeux écologiques et de cette catastrophe, même si on fait l'autruche, elle est là, elle est bien là, et elle risque de nous embêter de plus en plus et de plus en plus vite. Donc il y a pas mal de thèmes, alors je dirais que je pourrais vous donner 2-3 exemples, mais je parlerai d'abord de David Val, qui est un artiste qu'on a rencontré l'année dernière, dont j'ai vu les spectacles absolument formidables. David Val, c'est quelqu'un qui fait des causeries, et donc qui s'empare d'un thème, il travaille pendant 2 ans, et comme un espèce de voyageur dans le temps, il passe à toutes les époques, il revient très longtemps en arrière jusqu'à nos jours, par toutes les disciplines de la connaissance, de la philosophie, la science, bien sûr, puisqu'il est artiste associé à Océanopolis à Brest, mais aussi par la biologie, par la théologie, par la poésie, la littérature, bref, pour développer ce thème. Et on aura 2 fois cette année, d'abord avec un spectacle qui s'appelle pour les enfants de 6 à 9 ans, qui s'appelle Histoire de fouille, où David Val nous raconte l'histoire du plastique, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, avec tous les avantages qu'a eu ce plastique dans notre civilisation, et en même temps aujourd'hui, tous les inconvénients, les problèmes très très sérieux que ça pose, puisqu'on retrouve le plastique en particules fines partout, dans tous les océans du monde. On commence même à le respirer, les poissons mangent, les oiseaux aussi. Donc c'est un vrai vrai désastre écologique en cours, enfin voilà, qui est là. Et puis donc c'est une façon pour lui d'aborder de manière très ludique, puisqu'il y a un véritable champ de fouilles sur le plateau où il sort des objets, un os de dinosaure, tiens pourquoi ? Peut-être que l'origine du plastique vient des sols évidemment, et des os de dinosaures, mais ça il nous le dira lui-même. Et puis, il s'interroge aussi, effectivement, sur la transformation de la matière. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de ce plastique? Il y a une espèce de machine, un steam machine, vapeur machine sur le plateau qui parle de ce recyclage de la matière qui pose aujourd'hui tant de problèmes. Et donc, le deuxième rendez-vous avec David Val, elle s'appelle La visite curieuse et secrète ou relation véritable de choses inouïes se passant à la mer et ses abysses. Et là, c'est une causerie pour les grands, hein, pour les adultes, mais pour les enfants à partir de 8 ans, où David s'interroge sur le lien mystérieux qui unit l'homme et les mers et les océans. Donc depuis très très longtemps, donc il passe à travers des légendes ancestrales, des faits marins étonnants, voire totalement incroyables, des audaces philosophiques oubliées, des découvertes scientifiques non révélées. Tout ce que dit David Val dans ses causeries, que ce soit Histoire de fouilles ou La visite curieuse secrète, tout est vrai. Et donc il nous met dans une réalité parfois méconnue, et pour nous amener au bord d'un monde fantastique, imaginaire, dans une espèce de cabinet de curiosité, une odyssée fantastique. Donc c'est absolument magnifique, et ce monsieur, on va l'accompagner pendant très longtemps. Et puis sur le même thème de le rapport à la nature, on a moi ce que je considère comme un chef-d'œuvre théâtral. Et donc toujours sur le thème du rapport à la nature, la connexion des humains au monde sauvage, il y a un spectacle absolument magnifique qui pour moi que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre, mais ça n'engage que moi. C'est le travail de Julie Delisle, une comédienne metteuse en scène, qui a monté et qui a adapté pour le plateau, pour le théâtre, le magnifique roman de Anne Cibran, qui est une romancière voyageuse, sur une histoire qui s'appelle Je suis la bête. Et qui raconte l'histoire d'une enfant sauvage, Méline, une petite fille de 2 ans, abandonnée par ses géniteurs dans un placard, dans une maison en bordure de forêt, et qui va devenir élevée par une chatte sauvage, et qui va devenir bête parmi les bêtes, qui va être recueillie par les humains plus tard, mais qui nous raconte son expérience, nous fait revivre physiquement et de manière sensorielle ce qu'elle a vécu dans cette forêt-là. Quand je dis que c'était une expérience physique que Julie Delisle a voulu nous proposer, c'est qu'en fait, elle travaille beaucoup sur le noir, sur le clair-obscur, sur la lumière peut-être de la lune dans une forêt, ou l'aube dans une forêt, avec des nappes de brune. Ça, c'est un espèce de solo pour grand plateau absolument magnifique, des images formidables, avec un texte très organique, très organique, très intense. Et évidemment, le fait qu'on soit plongé dans une semi-obscurité, il y a de la lumière, hein, que les gens se rassurent, ben, les oreilles s'ouvrent très très grand, et donc on reçoit le texte très fortement. Et en plus, le spectateur est plongé dans un son immersif, tous les bruits d'une forêt, le tonnerre lointain, les bruits des pluies sur les feuilles, les bruissements des insectes, les grognements des animaux dans la forêt. Bref, c'est vraiment une expérience tout à fait étonnante et qui interroge évidemment notre part d'animalité perdue, notre réensauvagement à la nature et cette déconnexion qui aujourd'hui cause beaucoup de problèmes à l'humanité, je pense. Le fait que les humains et les non-humains ne soient pas reconnus dans un même monde vivant, donc elle interroge beaucoup ça. Ça, c'est pour la partie un petit peu écologique, mais il y en a d'autres. Il y a Baobab, la compagnie Josette Baez, un grand plateau de danse avec 17 danseurs, de jeunes enfants qui dansent et qui... Pareil, s'emparent aujourd'hui de l'état de la planète, leurs inquiétudes, ils prennent la parole. Enfin, c'est très très beau, c'est vraiment un grand plateau avec des projections d'images de la Terre formidables à l'arrière. Et puis, on a aussi des choses un peu plus, on a plein de grands plateaux. On a pas mal de choses qui interrogent l'histoire, parce que je pense qu'il y a des artistes, et j'en remercie, parce que de reparler un petit peu de l'histoire, ça me permet peut-être d'éclairer un peu le présent, voire d'éviter de faire les mêmes erreurs dans le futur. Et on a plusieurs compagnies qui s'intéressent à plonger dans l'histoire. Donc, je parlais d'histoire de fou, d'histoire du plastique. Ça fait partie aussi de l'histoire d'un matériau. Mais on a aussi un spectacle pour jeune public et tout public à voir en famille absolument, qui s'appelle Histoire de France, de la compagnie du double, Amina Gina et Émilie Prévoto, qui raconte l'histoire de 3 enfants, Arthur, Ibrahim et Camille, dont la prof d'histoire demande de rejouer des scènes de l'histoire en se déguisant et de manière théâtrale. Et évidemment, ça pose des problèmes. Est-ce que Ibrahim peut jouer Louis XVI? Voilà. Alors, il y a 3 moments de l'histoire. Il y a les Gaulois, la Révolution française et en même temps la victoire de la Coupe du Monde en 98. Donc, ils essaient de rejouer. Évidemment, ça interroge tout ce qu'on appelle le récit national. Comment on raconte l'histoire? Pour qui? Est-ce qu'on a l'impression de faire partie de cette histoire ou pas? Ça parle des identités aussi. Voilà, ça, c'est vraiment une plongée dans notre histoire, notre récit commun, on va dire. On a une autre histoire, un très, très grand plateau théâtre avec... un metteur en scène qui s'est attaché à la privatisation de TF1, puisqu'on se rappelle peut-être plus, mais en 87, jusqu'en 87, TF1 était une chaîne publique, et donc Bouygues rachète TF1 et que ça devient une chaîne privée, et au cœur de la rédaction et des journalistes qui s'interrogent maintenant sur le traitement de l'information qui change évidemment, où on fait plus du tout la même information, on s'intéresse plus peut-être au côté plus spectaculaire, en tout cas ça interroge notre rapport à l'information à travers des histoires, la mort de Bérégovoy, l'élection de Chirac à la présidentielle, et puis la chute du mur de Berlin, etc. Donc il y a plein qui sont traités, et comment ils sont traités de l'intérieur par cette radio, les journalistes. Donc encore une fois, une façon d'interroger notre histoire contemporaine. Et puis il y a des gens qui évidemment s'intéressent à leur propre histoire. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, le gros plateau théâtre qui s'appelle Le cœur fume encore de Margot Eskenazi, c'est une compagnie qui s'interroge sur les écritures de post-décolonisation et qui nous replonge dans la guerre d'Algérie, depuis la guerre d'Algérie jusqu'au match France-Algérie au Stade de France. Où, si je sais pas si vous vous rappelez, à cette époque-là, des supporters algériens français, mais interrompront le match avec le drapeau algérien. Et donc, c'est interroger cette histoire pour savoir pourquoi aujourd'hui ça continue parfois un peu problématique. Mais elle le fait pas en interrogeant l'histoire, elle interroge l'histoire intime, donc à travers les paroles d'un harki, l'histoire d'un harki, l'histoire d'un appelé du contingent, d'un militaire qui avait participé au putsch, d'une militante anticolonialiste, toutes ces kaléidoscopes d'histoire intime qui font la grande histoire et qui nous replongent dans une phase de l'histoire de France assez compliquée et qui reste encore aujourd'hui. Voilà, ça c'est tout cette façon d'aborder l'histoire. Puis il y a des histoires plus intimes de Paul Nguyen, la Palmera, qui avec son spectacle Mémoire invisible ou La part manquante, s'interroge. Il est franco-vietnamien, français, né en France, etc. Mais il y a toujours une part, un puzzle à reconstruire de son histoire familiale où il a du mal à savoir avec sa grand-mère, son grand-père, ce qui s'est passé, comment on fait. Tout s'interroge. Et ça, évidemment, il parle de lui, mais ça parle à beaucoup de gens qui sont issus du métissage, etc. Donc, les artistes s'interrogent beaucoup sur ces histoires-là et qui nous rappellent évidemment notre présent. Et puis, il faut que les gens nous entendent cette saison. On peut pas parler de tout aujourd'hui, mais il y a énormément de choses. C'est très, très varié, très riche. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des très grands plateaux danse avec le retour du ballet Paljocage. Un de ses meilleurs spectacles peut-être qui s'appelle Gravité. Il travaille sur la pesanteur. C'est absolument magnifique. Un grand plateau danse. On a le retour aussi de Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique national de Tours, qui, lui, pour les 20 ans de la compagnie, a fait un spectacle qui s'appelle Mille et une danses. Et donc, il y aura bien Mille et une danses sur le plateau avec 17 danseurs, enfin, une espèce de plongée dans la danse, les danses d'aujourd'hui, les danses d'hier, les danses de demain. Bref, c'est évidemment toujours avec ce côté un peu humoristique et assez théâtral chez Thomas Lebrun. Des grands plateaux théâtre. Je peux pas parler de tout. Peut-être vous dire peut-être encore une histoire un peu singulière, même totalement atypique dans le hip-hop, puisqu'on revient à hip-hop cette année, avec un solo de Hamid Benmahi de la compagnie hors série. Alors c'est une histoire très très particulière, puisqu'il y a 20 ans, il avait 27 ans, Hamid Benmahi, et le metteur en scène Michel Weiser, un solo qui avait beaucoup beaucoup marqué la danse hip-hop et les esprits, puisque pour la première fois, un danseur prenait la parole pour parler du monde autour, de la danse hip-hop, des clichés peut-être qu'on avait sur les banlieues, sur la danse hip-hop elle-même, son rapport à la danse classique, puisqu'il a fait de la danse classique. Et ces deux, Hamid Benmahi et Michel Weiser, 20 ans après se retrouvent. Alors si il y a 20 ans, Hamid Benmahi était un danseur en devenir, un jeune danseur absolument totalement virtuose, un hip-hop en dentelle magnifique, je crois que c'est un des meilleurs, je crois pas, c'est sûr, un des meilleurs danseurs français de hip-hop. 20 ans après, il se retrouve pour continuer à parler d'un portrait autobiographique dansé, avec le monde qui a changé autour, la danse hip-hop qui a aussi changé, puisqu'elle sera peut-être dans les Jeux Olympiques en 2024. Tout son rapport au monde, il est éponge de ce monde qui l'entoure, et c'est absolument magnifique, ça raconte l'histoire d'un homme, un danseur, en travers 20 ans de carrière, dans une période assez longue, et c'est absolument formidable.
Et des nouveautés aussi du côté de la billetterie.
Oui, alors on parlera d'autres spectacles plus tard, mais la billetterie, la petite nouvelle, c'est qu'on a un peu simplifié les abonnements, mais surtout qu'en fait, depuis la présentation de saison, qui a eu lieu le 18 et 19 juin dernier, les abonnements sont ouverts, mais aussi les billets à l'unité. Chacun peut prendre les billets qu'il veut pour toute la saison. On ne fait pas l'ouverture de billetterie à l'unité en septembre, on la fait en même temps que les abonnements. Donc les gens qui nous entendent peuvent prendre des billets, même s'ils ne souhaitent pas s'abonner, de spectacles qu'ils ont envie. Ça simplifie un peu les choses, on pense. Peut-être dans une période un peu troublée où les gens doivent donner envie aux gens de revenir dans les théâtres. C'est important. On a fait ce petit changement cette année. Et puis peut-être signaler aussi dans cette saison très très riche et variée qu'il y aura deux créations maison, donc des spectacles dont les premières ont lieu au Théâtre La Passerelle. Il y a d'abord J'attends que mes larmes viennent de comédien qui s'appelle Kamel Abdesadok, qui fait partie de la compagnie 26 000 couverts, qui était venu il y a quelques années avec un cabaret totalement déjanté qui s'appelait Ideal Club, que les gens avaient beaucoup adoré. Les gens se rappelleront peut-être d'une figure d'un Indien. Bah, c'est lui, avec ce physique un peu ingrat. Et Kamel a décidé de faire un solo pour parler un peu de sa propre mythologie, de son enfance, de ses parents d'origine étrangère, de son rapport à la musique, son rêve d'être une idole de Étienne Dao, enfin bref, tous ces petits moments de la vie qui reconstituent son histoire personnelle, sa mythologie personnelle, et il passe par tous les codes du standard, le stand-up, la ventriloquie, la magie, bref, c'est plutôt assez drôle. Il a un regard tendre, délicat, mais aussi très drôle sur sa propre histoire. Ça sera la première création. Et puis la deuxième création maison, on est plutôt content, puisque c'est une compagnie des Hautes-Alpes qui s'appelle la compagnie Chabrac, de Cécile Brochoir, qui elle s'est emparée d'un texte de Alexandra Badea qui s'appelle Burnout, sur le burnout, ce mal de notre société fait des ravages quand même. Et c'est un texte qui parle un peu de cette mécanique assez froide du burnout, comment ça peut arriver. Ces deux personnages, un évalué et un évaluateur, qui ont chacun des bonnes raisons de travailler plus et de se perdre finalement ce burnout qui les emporte. Mais avec peut-être une petite note d'espoir que Cécile Brochoir, puisqu'il y a des projections de dessins animés par Christophe Galeron, qui seraient peut-être un peu l'image de ce que pourrait être autre que ces gens que dans le monde du travail, où ils sont une espèce d'obsession de travailler plus, mériter beaucoup, travailler tout le temps, bref. Et il n'y a pas de honte à faire vivre sa famille au mieux, etc. Mais ils oublient un peu ce qu'ils peuvent être aussi en dehors de ce monde, de ce travail-là qui les bouffe et qui finit par les voir, pour certains, les tuer. Mais voilà, c'est une plongée dans un thème vraiment intéressant. Et puis peut-être, si vous le permettez, encore une fois, on a aussi des classiques dans la saison. Très tôt dans la saison, on a un Hamlet de Shakespeare magnifique par un Cobalt, la compagnie collective Cobalt, avec les spectateurs qui sont au milieu des acteurs, enfin vraiment qui vivent le Hamlet de l'intérieur et qui plongent dans la folie véritable ou feinte de Hamlet. Donc ça, c'est important. Puis, j'allais dire un Phèdre avec un point d'exclamation d'une compagnie suisse de François Grémaud, qui a été un gros, gros succès au Festival d'Avignon, le dernier Festival d'Avignon en 2019. Toute la presse nationale et internationale a été dithyrambique et on a la chance de le recevoir. Et c'est absolument jubilatoire, puisque c'est un peu comme un personnage qui serait un professeur qui viendrait faire un cours sur Racine et Phèdre et qui est tellement passionné qu'il finit par interpréter tous les personnages, qui s'étonne de la tragédie et surtout qui plonge dans les alexandrins magnifiques de Racine, qui sont considérés comme, pour la plupart, comme les plus beaux alexandrins de la langue française. Bref, c'est une plongée totalement atypique, drôle, jubilatoire, fine et intelligente que nous propose François Grémaud. Et on le jouera aussi deux fois au mois de décembre.